Premier amour, chapitre 8. Le lendemain matin, quand je descendis pour le thé, ma mère me gronda, moins cependant que je m'y attendais, et me força de lui raconter de quelle façon j'avais passé la soirée de la veille. Je lui répondis en quelques mots, en omettant nombre de détails, et en tâchant de donner à mon récit la tournure la plus insignifiante. N'importe, ce ne sont pas des gens comme il faut, remarqua ma mère, et tu ne dois pas prendre l'habitude d'aller chez eux. Tu ferais mieux d'étudier pour te préparer à ton examen. Comme je savais que les soucis de ma mère sur mes occupations devaient se borner à ces quelques paroles, je ne trouvais pas nécessaire de la contredire. Mais, après le thé, mon père me prit sous le bras, et, sortant avec moi dans le jardin, il me força à lui raconter tout ce que j'avais vu chez les Asekin. Mon père avait sur moi une étrange influence, et étranges étaient nos rapports. Il ne s'occupait presque pas de mon éducation, mais jamais il ne me blessait dans mon amour-propre. Il respectait ma liberté. Il était même, si on peut s'exprimer ainsi, poli avec moi. Seulement, il ne m'attirait jamais vers lui. Je l'aimais, je l'admirais. Il me semblait un modèle de perfection. Eh mon Dieu, avec quelle ardeur je me serais attachée à lui si je n'eusse senti sans cesse sa main qui m'écartait. En revanche, quand il voulait, il pouvait presque instantanément, d'un mot, d'un mouvement, faire naître en moi une confiance sans bornes. Mon âme s'ouvrait. Je bavardais avec lui comme avec un ami raisonnable, un guide condescendant. Puis, presque aussitôt, avec la même brusquerie, il m'abandonnait, et de nouveau, sa main m'écartait doucement, lentement, tendrement, mais elle m'écartait. Parfois, la gaieté le prenait, et alors, il était prêt à courir et à faire l'espiègle avec moi comme un écolier. Il aimait tous les exercices du corps. Une fois seulement, il me caressa avec une telle tendresse que je faillis en pleurer. Mais sa gaieté et sa tendresse disparurent sans trace, et ce qui se passa entre nous ne devait me laisser aucune espérance pour l'avenir. On eût dit que je l'avais vu dans un rêve. Il m'arrivait de me mettre à examiner son pur visage intelligent et beau. Mon cœur tressaillait, et tout mon être allait vers lui. Il semblait deviner ce qui se passait entre moi, me tapotait la joue en passant, et s'en allait, ou bien s'occuper de quelque chose, ou se raidissait tout à coup comme lui seul savait le faire. Et moi, de mon côté, je me resserrais aussitôt et je devenais froid. Ce n'étaient jamais mes prières silencieuses, mais pourtant faciles à comprendre, qui provoquaient ces rares accès d'affection. Ils se produisaient toujours d'une façon inattendue. Plus tard, en réfléchissant au caractère de mon père, je suis arrivée à cette conclusion que la vie de famille ne l'intéressait guère. Il aimait autre chose, et il prit à cette autre chose toutes les jouissances qu'elle pouvait lui donner. « Prends ce que tu peux, mais ne te laisse jamais prendre toi-même. S'appartenir, c'est là tout le truc de la vie », me dit-il un jour. Une autre fois, moi, en ma qualité de jeune démocrate, je me lançai en sa présence dans une dissertation sur la liberté. Il était ce jour-là, comme je l'appelais, bon. Alors, on pouvait parler de tout avec lui. « La liberté, » dit-il, « mais sais-tu ce qui peut donner à l'homme la liberté ?»« Quoi ? Sa volonté, sa propre volonté. Elle lui donnera le pouvoir qui vaut mieux que la liberté. » « Sache vouloir, et tu seras libre, et tu commanderas. » Mon père, avant tout et plus que tout, voulait vivre, et il vivait. Peut-être pressentait-il qu'il n'avait pas longtemps à profiter du « truc de la vie ». Il mourut à l'âge de 42 ans. Je racontai en détail à mon père ma visite chez les Asekin. À demi attentif, à demi distrait, il m'écoutait, assis sur le banc et en traçant des dessins sur le sable du bout de sa cravache. Il souriait de temps à autre d'une manière joyeuse, me regardaient drôlement et m'excitaient par de brèves questions et des réparties. D'abord, je ne me laissais même pas aller à prononcer le nom de Zinaïda. Mais je ne pus me retenir et je me mis à faire sa louange. Mon père continuait à sourire. Puis il devint songeur, s'étira et se leva. Je me rappelais qu'en sortant de la maison, il avait ordonné de seller son cheval. Il était excellent cavalier et savait, bien avant le célèbre monsieur Réry, dompter les chevaux les plus rebelles. « Est-ce que j'irai avec toi, papa ?» lui demandai-je. « Non, » répondit-il, et son visage prit son expression ordinaire d'affabilité indifférente. « Va seul, si tu veux, et dis au cocher que je ne monterai pas à cheval aujourd'hui. » Il me tourna le dos et s'éloigna vivement. Je le suivis des yeux. Il disparut sous la porte cochère, puis je vis son chapeau suivre la haie. Il entra chez les Asséquines. Il n'y resta pas plus d'une heure, et aussitôt après il partit en ville et rentra seulement le soir à la maison. Après le dîner, j'allai de moi-même chez les Asséquines. Je ne trouvai dans le salon que la vieille princesse. En m'apercevant, elle se gratta la tête sous son bonnet du bout de son aiguille à tricoter et tout à coup me demanda si je pouvais lui copier une supplique. « Avec plaisir, » répondis-je en m'asseyant sur le bord d'une chaise. « Seulement, prenez garde, faites les lettres assez grosses, » dit la princesse en me tendant un papier tout sale d'écriture. « Ne vous serait-il pas possible de le faire aujourd'hui, petit père ?»«
Ça sera fait aujourd'hui même. »
La porte de la chambre voisine s'entr'ouvrit à peine, et le visage de Zinaïda, pâle et absorbé, aux cheveux négligemment rejetés en arrière, se montra. Elle me regarda avec de grands yeux froids et referma doucement la porte.
« Zina ! Hé, Zina !» fit la vieille princesse.
Zinaïda ne répondit pas. J'emportai la supplique et je passai toute la soirée à la copier. Chapitre 9. Ma passion commença dès ce jour. Je me souviens d'avoir ressenti alors quelque chose de semblable à ce que doit éprouver un homme qui est nouvellement entré dans un emploi. Je cessais d'être tout simplement un petit garçon. J'étais un amoureux. J'ai dit que de ce jour commença ma passion. J'aurais pu ajouter que mes souffrances aussi commencèrent du même jour. Je languissais en l'absence de Zinaïda. Rien n'occupait plus ma pensée. Tout tombait de mes mains. Toute la journée, je ne songeais qu'à elle. Je languissais. Mais en sa présence, il me semblait que je respirais avec plus de plénitude. Puis, je devenais jaloux. J'avais conscience de mon peu d'importance. Bêtement, je boudais. Bêtement, j'étais servile. Et quand même, une force irrésistible m'entraînait vers elle. Chaque fois que je franchissais le seuil de la chambre, c'était avec un tremblement involontaire de bonheur. Zinaïda devina aussitôt que j'étais amoureux d'elle, et d'ailleurs je ne cherchais pas à le dissimuler. Elle se jouait de ma passion, me cajolait et me torturait. Il est doux d'être la source unique, une cause toute puissante et irresponsable des plus grandes joies et des plus profonds chagrins d'un autre. Et moi, dans la main de Zinaïda, j'étais comme une cire molle. Du reste, je n'étais pas le seul amoureux d'elle. Tous les hommes qui venaient chez les Asséquines étaient fous de la jeune fille, et elle les tenait tous en laisse à ses pieds. Elle se faisait un jeu de faire naître en eux tantôt l'espérance, tantôt le désespoir, de les faire sauter selon son bon plaisir. Elle appelait cela « cogner les hommes les uns contre les autres ». Et eux ne songeaient même pas à lui tenir tête et se soumettaient bénévolement. Tout son être, vivace et beau, était un composé attrayant de ruse et d'insouciance, d'artifice et de naturel, de calme et de mutinerie. Tout ce qu'elle faisait, disait, chacun de ses mouvements était empreint d'un charme fin et léger. Dans tout se trahissait une force personnelle et exubérante. Et son visage jouait et changeait aussi à chaque instant. il exprimait presque en même temps la raillerie, la langueur et la passion. Des sentiments divers, légers, rapides, comme les ombres des nuages dans un jour de vent et de soleil, passaient sans cesse dans ses yeux et sur ses lèvres. Chacun de ses adorateurs lui était nécessaire. Belov Zorov, qu'elle appelait parfois « mon fauve » et parfois tout simplement « le mien », se serait jeté au feu pour elle, sans hésiter. N'ayant pas confiance dans ses facultés intellectuelles ni dans ses autres qualités, il proposait toujours à la jeune fille de l'épouser, lui donnant à entendre que les autres ne faisaient que la courtiser. Maïdanov satisfaisait les côtés poétiques de son âme. En homme assez froid, comme presque tous les écrivains, il mettait tout ce qu'il avait de force à l'assurer, elle et lui-même, qu'il l'adorait. Il la chantait dans des vers sans fin qu'il lui lisait avec un transport à la fois emphatique et sincère. Elle avait pour lui une sympathie parfois un peu moqueuse. Au fond, elle n'en faisait pas beaucoup de cas, et après avoir écouté ses épanchements, elle l'obligeait à lire des vers de Pouchkine pour, comme elle le disait, rafraîchir l'air. Louchine, railleur et cynique en parole, la connaissait mieux que tous les autres, et il l'aimait plus que tous les autres, bien qu'il la malmenât, qu'elle fût présente ou non. Elle l'estimait, mais elle ne se gênait pas pour lui tenir tête, et parfois, avec un plaisir particulier et méchant, elle lui faisait sentir que lui aussi était dans ses mains. « Je suis une coquette, je n'ai pas de cœur, j'ai une nature d'actrice », lui dit-elle un jour en ma présence. « C'est entendu. Maintenant donnez votre main, et j'y enfoncerai une épingle. Vous aurez honte devant ce jeune homme, et malgré le mal que vous éprouverez, vous, monsieur l'homme sincère, vous rirez quand même. » Louchine rougit, détourna la tête en pinçant les lèvres, mais finit par avancer sa main. Elle le piqua, et effectivement, il se mit à rire. Elle riait aussi, en enfonçant assez profondément l'épingle et en plongeant son regard dans ses yeux qu'il cherchait vainement à fixer ailleurs. Ce que je comprenais le moins, c'était les rapports existants entre Zinaïda et le comte Malevski. Il était beau, homme du monde et intelligent, mais quelque chose d'équivoque, de faux se révélait en lui, même à mes yeux, à moi, garçon de 16 ans. Et je m'étonnais que Zinaïda ne s'en rendît pas compte. Cependant, il était possible qu'elle eût le sentiment de cette fausseté, mais cela ne produisait pas un mauvais effet sur elle. Une éducation mal dirigée, des fréquentations et des habitudes étranges, la présence constante de la mère, la pauvreté et le désordre de la maison, tout en commençant par la liberté même dont jouissait la jeune fille, la conscience qu'elle avait de sa supériorité sur son entourage, avait développé en elle une sorte de dédain qui la rendait peu exigeante. S'il arrivait, par exemple, que Vonifati rapportât qu'il n'avait pas de sucre, ou bien que quelque désagréable commérage se fît jour, ou qu'une querelle eût lieu entre invités, elle ne faisait qu'agiter ses boucles en disant « des vétilles » et ne s'en inquiétait pas davantage. En revanche, je sentais mon sang bouillonner en moi quand Malevski s'approchait d'elle en se balançant avec la ruse d'un renard, s'accoudait gracieusement sur le dos de la chaise où elle était assise et se mettait à murmurer à son oreille avec un petit sourire suffisant et obséquieux, tandis qu'elle, les bras croisés sur la poitrine, le regardait attentivement, en souriant aussi et en agitant sa tête. « Quel plaisir avez-vous à recevoir M. Malevski ? » demandai-je un jour à Zinaïda. « Il a de si belles petites moustaches, » répondit-elle. « Ce n'est pas de votre ressort. » Une autre fois, elle me dit « Peut-être pensez-vous que je l'aime ?»« Non, je ne puis pas aimer ce que je suis obligée de regarder de haut en bas. Il me faut quelqu'un qui me brise moi-même. Mais grâce à Dieu, ce quelqu'un-là, je ne le rencontrerai jamais. Je ne tomberai jamais dans les pattes de personne. »
Non, non.
Alors, vous n'aimerez jamais ?
Et vous donc, est-ce que je ne vous aime pas ? Dit-elle.
Et du bout de son gant, elle me frappa légèrement sur le nez.
Oui, Zinaïda se jouait de moi.
Pendant 3 semaines, je la vis presque chaque jour. Et que ne faisait-elle pas de moi ? Elle venait rarement chez nous, ce que d'ailleurs je ne regrettais pas. Dans notre maison, elle se transformait en grande dame, en princesse, et je l'évitais. Je craignais de me trahir devant ma mère, qui était peu bienveillante pour Zinaïda, et nous épiait d'un air mécontent. Je ne craignais pas autant mon père. Il semblait ne pas s'apercevoir de ma présence. Avec Zinaïda, il parlait peu, mais d'une façon particulière, intelligente, nullement oiseuse. Je cessais tout travail, toute lecture. J'abandonnais même mes promenades dans les environs et ne montais plus à cheval. Comme un scarabée retenu par un fil, je tournoyais autour de mon pavillon préféré. J'y serais même resté toujours, mais c'était impossible. Ma mère murmurait, et parfois Zinaïda elle-même me chassait. Alors, je m'enfermais dans ma chambre, où je me retirais dans l'endroit le plus écarté de notre jardin. J'escaladais le mur ruiné d'une haute serre en pierre, et, les jambes pendantes du côté qui donnait sur la route, je passais des heures entières à regarder sans rien voir. Auprès de moi, sur l'ortie poudreuse, voltigeaient paresseusement des papillons blancs. Un hardi moineau se posait tout près sur une brique rouge à demi effritée et piaulait d'une façon agaçante en tournant sans cesse de tout son corps et la queue étendue. Les corbeaux, toujours défiants, croassaient de temps à autre, perchés sur le sommet d'un bouleau dénudé. Le soleil levant jouait doucement dans ses maigres branches. La sonnerie des cloches du monastère de Don arrivait par moments, paisible et monotone, tandis que je restais assis à regarder, à écouter, et tout mon être se remplissait d'un sentiment inexprimable où tout se réunissait, et la tristesse, et la joie, et le pressentiment de l'avenir, et le désir, et la peur de la vie. Mais de tout cela, alors, je ne me rendais pas bien compte, et je n'aurais rien pu définir de ce qui fermentait en moi. Ou bien, si à cet état de mon âme j'avais donné un nom, c'eût été celui de Zinaïda. Quant à elle, elle jouait toujours avec moi comme un chat avec une souris. Tantôt elle était coquette, et je m'animais et je m'amollissais. Tantôt elle me repoussait, et je n'osais pas l'approcher, je n'osais pas la regarder. Je me souviens que pendant plusieurs jours de suite, elle me témoigna une grande froideur. Je m'en sentis tout craintif, et quand, lâchement, j'entrais dans leur pavillon, je me tenais toujours auprès de la vieille princesse, bien qu'elle fût plus que jamais grogneuse et bruyante. Ses procès marchaient mal, et elle avait eu déjà 2 explications avec le commissaire de police. Un jour, je passais dans le jardin, en longeant la haie déjà connue, et j'aperçus Zinaïda. Accoudée sur ses 2 mains, elle était assise sur l'herbe et ne remuait pas. J'étais sur le point de m'éloigner avec précaution, mais elle leva tout à coup la tête et me fit un signe impératif. Je restais immobile sur place. Je ne l'avais pas comprise. Elle fit de nouveau le même signe. Aussitôt j'enjambais la haie, et tout joyeux, je courais vers elle. Elle m'arrêta en me désignant un sentier à 2 pas. Troublée, ne sachant que faire, je me mis à genoux sur le bord du sentier. Elle était si pâle, une tristesse si amère, une fatigue si profonde se peignait dans chacun de ses traits que mon cœur se serra et que, malgré moi, je murmurais « Qu'avez-vous ?» Zinaïda, avançant la main, arracha une herbe, la mordit et la rejeta au loin. « Vous m'aimez beaucoup ?» demanda-t-elle enfin. « Oui ?» Je ne répondis rien. À quoi bon répondre, d'ailleurs ?« Oui, » répéta-t-elle en continuant à me regarder. « C'est cela. Les mêmes yeux !» ajouta-t-elle en restant rêveuse et en cachant son visage dans ses mains.
Tout me dégoûte, murmura-t-elle. Je fuirais au bout du monde. Il m'est impossible de vaincre, et je ne puis pas me maîtriser. Et qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir? Que cela me pèse! Combien cela me pèse!
Quoi? Demandai-je timidement.
Zinaïda ne me répondit pas. Elle ne fit que hausser les épaules. Je continuai à rester à genoux et à la regarder avec une profonde tristesse. Chacune de ses paroles me frappait le cœur. En ce moment, il me semblait que j'aurais donné ma vie pour lui ôter son chagrin. Je la regardais, et bien qu'il ne me fût pas possible de deviner ce qui lui pesait tant, je la voyais, très nettement maintenant, en esprit, arrivée dans le coin du jardin où elle se trouvait, et tombée là comme une plante fauchée. Autour de nous, tout était éblouissement et verdure. Le vent bruissait dans le feuillage, balançant de temps à autre la longue branche d'un arbrisseau au-dessus de la tête de Zinaïda. Des tourterelles roucoulaient et des abeilles bourdonnaient en voltigeant très bas sur l'herbe rare. En haut, bleuissait le ciel caressant. Et moi, j'étais si triste.
« Récitez-moi quelques vers, » dit à mi-voix Zinaïda en s'appuyant sur son coude.
« J'aime vous entendre réciter. Vous chantez un peu, mais cela ne fait rien. C'est jeune. Récitez-moi « sur les collines de la Géorgie. Mais asseyez-vous d'abord. »
Je m'assis et je lui récitai « sur les collines de la Géorgie. »
« Ne pas aimer, on ne le peut pas. » répéta comme un écho Zinaïda au dernier vers. « Voilà en quoi la poésie est du bon. Elle vous dit ce qui n'existe pas et qui est non seulement mieux que ce qui existe, mais même qui ressemble plus à la vérité. Ne pas aimer, on ne le peut pas. On le voudrait, on ne le peut pas. »
De nouveau, elle se tut, et tout à coup se secoua et se leva.
« Venez, Maïdanov est avec maman. Il m'a apporté son poème et je l'ai laissé là. Lui aussi a du chagrin en ce moment. Mais que faire? Vous saurez un jour. Seulement, ne m'en veuillez pas. »
Zinaïda me serra rapidement la main et courut en avant. Nous rentrâmes dans le pavillon. Maïdanov se mit à nous lire son « Assassin » qui venait de paraître, mais je ne l'écoutais pas. Avec des petits cris et en chantonnant, il lisait ses iambes de quatre pieds. Les rimes se suivaient à tour de rôle et résonnaient comme des grelots creux et sonores. Tandis que moi, je regardais toujours Zinaïda, et je m'efforçais de pénétrer la signification de ses dernières paroles. « Ou peut-être un rival secret t'a vaincu soudain ?» s'écria tout à coup Maïdanov. Et mon regard et celui de Zinaïda se rencontrèrent. Elle baissa les yeux. Je vis qu'elle rougissait, et je devins tout glacé de frayeur. Déjà avant, j'étais jaloux. Mais ce n'est qu'à cet instant que la pensée qu'elle aimait quelqu'un passa comme un éclair dans ma tête. Mon Dieu, elle aime! Chapitre 10. Les vraies tortures commencèrent pour moi de ce moment. Je me cassais la tête, je réfléchissais, je ruminais, et sans cesse, quoiqu'en secret, autant que possible, je surveillais Zinaïda. Un changement était survenu en elle, c'était clair. Elle se promenait seule, très longtemps. Parfois, elle ne se montrait pas aux visiteurs. Elle restait dans sa chambre des heures entières, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. J'étais devenue tout à coup, du moins il me semblait, très perspicace. « Est-ce celui-ci ou celui-là ? » me demandais-je en énumérant fiévreusement dans mon esprit ses adorateurs l'un après l'autre. Le comte Malevski, quoique j'eusse honte pour Zinaïda d'en convenir, me semblait plus dangereux que les autres. Ma perspicacité ne voyait pas plus loin que le bout de mon nez, et ma secrète surveillance ne trompait sans doute personne. Le docteur Louchine, au moins, m'avait, lui, vite deviné. Du reste, lui aussi changea dans ces derniers temps,
il maigrit, tout en riant aussi souvent, mais d'un rire assourdi, méchant et bref. Une irritation involontaire, nerveuse, remplaça l'ironie légère qui lui était habituelle et son cynisme voulu. « Qu'avez-vous donc à traîner toujours vos guêtres ici, jeune homme ?» me dit-il un jour, qu'il était resté seul en tête-à-tête avec moi dans le salon des Sasekine. Zinaïda n'était pas encore revenue de sa promenade, et la voix criarde de la vieille princesse résonnait dans l'office. Elle se querellait avec sa femme de chambre. « Vous feriez mieux d'étudier et de travailler pendant que vous êtes jeune. Au lieu de cela, que faites-vous »«
Vous ne savez pas si je ne travaille pas à la maison ?»
lui répondis-je, non sans hauteur, mais aussi avec un certain trouble.
« Un bon travail ! Dans ce cas-là, vous avez autre chose dans la tête. Enfin, je ne discute pas. À votre âge, c'est dans l'ordre des choses. Seulement, votre choix n'est pas bien tombé. Vous ne comprenez donc pas dans quel genre de maison vous êtes ?»«
Je ne vous comprends pas, » remarquai-je.
« Vous ne comprenez pas. Tant pis pour vous. Je considère comme mon devoir de vous ouvrir les yeux. Nous autres, vieux célibataires, nous pouvons nous aventurer ici. Qu'en peut-il résulter ? Nous sommes bronzés. Rien n'a plus de prise sur nous. Tandis que votre épiderme est encore sensible. L'air d'ici est malsain pour vous. Vous pourrez gagner la contagion. »
Comment cela ?
Mais tout simplement. Vous sentez-vous sain d'esprit en ce moment ? Êtes-vous dans un état normal ? Ce que vous éprouvez, vous est-il nécessaire ? Bon ?
Mais qu'est-ce que j'éprouve donc ? Demandai-je, tout en convenant intérieurement que le docteur avait raison.
« Hé, jeune homme » continua-t-il comme si dans ces mots il renfermait pour moi quelque chose d'offensant. « Ce n'est pas à vous de ruser. Grâce à Dieu, ce que vous avez dans l'âme se reflète encore sur votre visage. Mais au fait, pourquoi tant parler ? Moi-même, je ne serais pas ici. »
Le docteur serra les dents.
« Si je n'étais pas comme vous, un original. Je ne m'étonne que d'une chose, c'est que vous, avec votre intelligence, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. »«
Mais que se passe-t-il donc ? » demandai-je vivement en dressant l'oreille dans l'attente de ce qui allait être répondu. Le docteur me considéra avec une sorte de pitié railleuse.
« Me voilà bien maintenant, » dit-il comme en lui-même. Avec ça, que c'est nécessaire de lui raconter ces choses-là.
« En un mot, » ajouta-t-il en haussant la voix, « je vous le répète, l'atmosphère que l'on respire ici vous est nuisible. Il vous est agréable de vous trouver dans cette maison, mais il y a beaucoup de choses agréables. Dans une serre aussi, cela sent bon, mais on ne peut pas y vivre. Eh, écoutez-moi. « Remettez-vous à votre Caïdanov. » La vieille princesse entra et se plaignit au docteur de maux de dents. Puis vint Zinaïda.
« Justement, » dit la mère, « monsieur le docteur, grondez-la donc. Toute la journée, elle boit de l'eau avec de la glace. Est-ce que cela ne lui est pas nuisible avec sa poitrine faible ?»«
Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Louchine.
« Et que peut-il en résulter ?»
« Mais vous pouvez vous refroidir et mourir ?»«
Vraiment ? Eh bien, ce sera tant mieux. »«
Ah, oh, bah !» grogna le docteur. La vieille princesse sortit.
« Ah, bah !» répéta Zinaïda. « Jetez un coup d'œil autour de vous. Est-ce que la vie est si gaie ? Eh bien, est-elle gaie ? Croyez-vous que je ne comprenne pas, que je ne sente pas ? Cela me plaît de boire de l'eau glacée. Et pensez-vous me persuader qu'une vie pareille vaille la peine qu'on lui sacrifie le plaisir d'un moment ? Je ne vous parle même pas de bonheur. Eh bien, c'est un caprice chez vous, le désir de vous montrer indépendante. Toute votre nature se résume dans ces mots.
Zinaïda eut un rire nerveux.
Vous n'êtes plus au courant, cher docteur. Vous êtes un mauvais observateur. « Vous êtes arriéré. Mettez vos lunettes.
Je ne suis pas en état de faire la capricieuse en ce moment. Vous faire passer pour sot, faire la sotte moi-même, n'est pas bien amusant. Quant à l'indépendance, monsieur Valdemar, ajouta tout à coup Zinaïda en frappant du pied, quittez cette physionomie mélancolique. Je ne supporte pas qu'on s'apitoie sur moi. Elle s'éloigna vivement.
Elle est nuisible. Elle est nuisible pour vous, cette atmosphère, jeune homme, me répéta encore Louchine.
Chapitre 11. Le soir de ce jour, se réunirent chez les Assekines les hôtes ordinaires de la maison. J'étais du nombre. La conversation roulait sur le poème de Maïdanov. Zinaïda le louait sincèrement. « Moi, savez-vous, dit-elle au jeune homme, si j'étais poète, je choisirais d'autres sujets. Peut-être sont-ce des bêtises, mais parfois il me vient dans la tête d'étranges pensées, surtout quand je ne dors pas avant le matin, quand le ciel commence à devenir rose et gris. Je choisirais par exemple... Mais vous vous moquerez de moi.
Non, non, nous écriâmes nous tous d'une commune voix.
J'aurais mis en scène, continua-t-elle, les bras croisés sur la poitrine et les yeux tournés sur le côté, toute une société de jeunes filles, tout en blanc, avec des couronnes de fleurs blanches, chantant, par exemple, quelque chose comme un hymne.
Je comprends, je comprends. Continuez, dit Maïdanov d'un air inspiré et grave.
Tout à coup du bruit, des rires, des torches, des coups de grosse caisse sur la rive. C'est une troupe de bacchantes qui court avec des chansons et des cris. Maintenant, c'est à vous de faire le tableau, monsieur le poète. Seulement, je voudrais que les torches fussent rouges et très fumeuses, et les yeux des bacchantes devraient luire sous leurs couronnes, lesquelles seraient de couleur sombre. N'oubliez pas non plus les peaux de tigre, les coupes et l'or, beaucoup d'or.
Et où doit se trouver cet or? Demanda Maïdanov en rejetant en arrière ses cheveux plats et en ouvrant ses narines.
Où? Sur les épaules, sur les bras, sur les jambes, partout. On dit que dans l'Antiquité, les femmes portaient des anneaux en or au bas de leurs jambes. Les bacchantes appellent à elles les jeunes filles du bateau. Celles-ci cessent de chanter leur hymne, et en effet, il leur est impossible de le continuer, mais elles ne bougent pas. La rivière les porte vers le bord, et voilà que tout à coup, l'une d'elles se lève doucement. Il faut bien décrire cela, dire comment elle se lève doucement à la lueur de la lune, et comment ses compagnes s'effraient. Elle enjambe le bord du bateau et descend sur la rive. Les bacchantes l'entourent, l'enlèvent dans la nuit, dans l'ombre. Imaginez-vous alors de gros flocons de fumée et tout devient confus. On n'entend que des cris aigus et l'on n'entrevoit plus qu'une couronne tombée sur la rive. Zinaïda se tut. Oh, elle aime, pensai-je de nouveau.
Et c'est tout ? Demanda Maïdanov.
C'est tout, répondit-elle.
Cela ne peut fournir le sujet de tout un poème, dit-il d'un ton solennel. Mais pour une pièce de vers lyrique, je pourrais profiter de votre idée.
Dans le genre romantique? Demanda Malevski.
Assurément, dans le genre romantique, celui de Byron.
Pour moi, Hugo vaut mieux que Byron, dit nonchalamment le jeune comte.
Il est plus intéressant.
Hugo est un écrivain de premier ordre, répliqua Maïdanov, et mon ami Tonkotcheïev, dans son roman espagnol El Trobador.
Ah oui, ce livre avec des points d'interrogation renversés, interrompit Zinaïda.
Oui, c'est admis ainsi chez les Espagnols. Je voulais donc dire que...
Allons, vous allez encore discuter sur le classique et sur le romantique,
interrompit de nouveau Zinaïda.
Jouons plutôt.
Au fan? Saisit au vol Louchine.
Non, c'est ennuyeux, les fans. Plutôt comparaison. Ce jeu avait été inventé par Zinaïda elle-même. On nommait quelque objet, chacun tâchait de le comparer avec quelque chose, et celui qui trouvait la meilleure comparaison recevait le prix. Elle s'approcha de la fenêtre, le soleil venait de se coucher, de longs nuages rouges se tenaient très haut dans le ciel. « À quoi ressemblent ces nuages ?» demanda Zinaïda. Et sans attendre la réponse, elle dit « Je trouve qu'ils ressemblent à ces voiles de pourpre qui conduisaient le bateau en or de Cléopâtre quand elle allait à la rencontre d'Antoine. Vous souvenez-vous, Maïdanov ? Vous m'avez raconté cela il n'y a pas longtemps. » Nous tous, comme Polonius dans Hamlet, nous décidâmes que ces nuages rappelaient précisément ces voiles et que personne de nous ne pourrait trouver une meilleure comparaison. « Et quel âge avait-il alors, Antoine ?» demanda Zinaïda. « Il devait certainement être un jeune homme, » remarqua Malevski. « Oui, jeune, » confirma Maïdanov. « Pardon, » s'écria Louchine, « il avait plus de 40 ans. » « Plus de 40 ans !» répéta Zinaïda en jetant sur le docteur un regard rapide. Bientôt après, je rentrai à la maison. « Elle aime !» murmurait malgré moi mes lèvres. « Mais qui ?» Chapitre 12. Les jours se suivaient. Zinaïda devenait de plus en plus étrange et incompréhensible. Il m'arriva une fois d'entrer chez elle. Je la trouvais assise sur une chaise de paille, la tête appuyée sur le bord d'une table. Elle se redressa, son visage était plein de larmes. « Ah, c'est vous !» dit-elle en souriant, quoique d'un air un peu sévère. « Approchez-vous !» Je m'approchai, elle posa ses deux mains sur ma tête et tout d'un coup se mit à tordre des mèches de mes cheveux. « Vous me faites mal !» prononçai-je enfin. « Ah, ça fait mal !» « Et moi donc, je n'ai pas mal ? Je n'ai pas mal ? » répéta-t-elle. « Ah ! » s'écria-t-elle tout à coup, voyant qu'elle m'avait arraché une mèche. « Qu'ai-je fait, pauvre monsieur Valdemar ?» Elle lissa les cheveux arrachés et les mit en anneau. « Je vais mettre vos cheveux dans mon médaillon et je le porterai. » Et des larmes brillaient toujours dans ses yeux. « Peut-être que cela vous consolera un peu. » « Et maintenant, adieu !» Quand je retournai à la maison, je tombai en pleine scène de famille. Maman et mon père avaient une explication. Maman reprochait à mon père quelque chose, et celui-ci, sans discuter, restait froid et poli. Bientôt, il partit. Je ne pouvais pas entendre de quoi se plaignait maman. J'avais la tête occupée d'autres idées. Je me souviens seulement qu'une fois l'explication terminée, elle me fit appeler dans son cabinet et, d'un ton très désagréable, me parla de mes fréquentes visites chez la princesse, laquelle, à son avis, était une femme capable de tout. Les larmes de Zinaïda me déroutaient complètement. Je ne savais pas du tout à quelle idée m'arrêter et j'étais prêt à pleurer moi-même. J'étais toujours un enfant malgré mes 16 ans. Je ne pensais plus à Malevski ni à Belovzrov. Bien que ce dernier devint chaque jour plus hardi et regarda le comte comme un loup regarderait une brebis. Je ne pensais à rien ni à personne. Je me perdais dans ses réflexions et je cherchais toujours des endroits isolés. Plus que tout, j'aimais la serre en ruine. Je montais sur le mur élevé, je m'asseyais là, de l'air d'un adolescent, si malheureux, si abandonné, si triste, que j'arrivais à m'en faire pitié à moi-même. Et ces sensations amères avaient quelque chose de très doux qui enivrait et que je goûtais. Un jour, me trouvant sur ce mur, je regardais au loin et j'écoutais le tintement des cloches. Tout à coup, je sentis comme le frémissement d'un vent qui passait sur moi, qui me frôlait. Je laissai tomber mes yeux. En bas, sur la route, dans une légère robe rose avec une ombrelle rose sur l'épaule, Zinaïda marchait d'un pas rapide. Elle m'aperçut, s'arrêta, et, rejetant le bord de son chapeau de paille, elle leva sur moi ses yeux de velours. «
Que faites-vous là sur une pareille hauteur ?
Me demanda-t-elle avec un étrange sourire.
Voilà, vous m'assurez toujours que vous m'aimez. Sautez sur la route, si réellement vous m'aimez.
À peine avait-elle prononcé ces mots que je volais en bas, comme si quelqu'un me poussait par derrière. Le mur avait à peu près 4 mètres de hauteur. Je tombai droit sur mes pieds, mais le choc fut si violent que je ne fus plus maître de moi. Je perdis connaissance. Quand je revins à moi, sans ouvrir les yeux, je sentis Zinaïda.
« Cher petit !» disait-elle penchée sur moi, et dans sa voix si douce se devinait de l'effroi. « Pourquoi m'as-tu obéi ? Je t'aime, voyons ! Reviens à toi !»
Sa poitrine respirait près de la mienne, ses mains caressaient ma tête, et tout à coup, oh Dieu ! Que ressentis-je en ce moment ? Ses lèvres fraîches et douces commencèrent à couvrir de baisers tout mon visage. Elles touchèrent mes lèvres. Mais subitement, comprenant sans doute à l'expression de mon visage que je n'étais plus évanouie, quoique je n'eusse pas encore rouvert mes yeux, elle se leva rapidement et dit « Allons, levez-vous, espiègle, écervelée. Pourquoi vous roulez-vous dans la poussière ?» Je me levai.
« Donnez-moi mon ombrelle. Voyez où je l'ai jetée. Et puis ne me regardez pas de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Vous ne vous êtes pas fait mal ? Vous ne vous êtes pas piqué dans les orties ? On vous dit de ne pas regarder comme ça. Mais il ne comprend rien. Il ne répond rien, » dit-elle comme à elle-même.
« Allez à la maison, monsieur Valdemar. Brossez-vous et ne vous permettez pas de me suivre. Autrement je me fâcherai. » Et alors, jamais plus. Elle n'acheva pas la phrase, elle s'éloigna rapidement. Et moi, je m'assis sur la route. Mes pieds ne me supportaient pas. Les piqûres d'ortie brûlaient mes mains, mon dos me faisait mal, ma tête tournait. Mais les sensations que je venais d'éprouver étaient si délicieuses qu'elles ne se répétèrent jamais plus dans ma vie. Je sentais dans tous mes membres comme un malaise doux qui finissait par s'épandre en exclamations joyeuses et en sauts de contentement. En effet, vous le voyez, j'étais encore bien enfant. Chapitre 13. Je fus si gai et si fier toute cette journée. Je gardais si clairement sur mon visage la sensation des baisers de Zinaïda. Je me souvenais avec un si grand frémissement de jouissance de chacun de ces mots, je berçais si jalousement mon bonheur inattendu, que j'avais même peur de revoir celle qui était la cause de ces émotions inconnues. Il me semblait qu'on ne pouvait rien demander de plus au bonheur, que maintenant il fallait respirer à plein poumon pour la dernière fois et mourir. Mais le lendemain, quand je me dirigeais vers le pavillon, j'éprouvai un grand trouble que je voulus vainement cacher sous le masque de tranquille insouciance de l'homme qui veut faire comprendre qu'il est discret et sait se taire. Zinaïda me reçut très naturellement, sans aucun trouble, en me menaçant simplement de son doigt et en me demandant si je n'avais pas des bleus sur le corps. Toute ma tranquillité importante, mon air mystérieux, s'évanouirent instantanément, et avec eux, ma gêne vis-à-vis d'elle. Sûrement, je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, mais la tranquillité de Zinaïda fit sur moi l'effet d'une douche d'eau froide. Je comprenais que je n'étais qu'un enfant à ses yeux, et j'en restais le cœur gros. Zinaïda se promena de long en large dans la chambre et souriait chaque fois qu'elle me regardait, mais ses pensées étaient très loin de moi. Je le voyais clairement. Faut-il lui parler de l'affaire d'hier, pensais-je, lui demander où elle courait si précipitamment, pour savoir enfin. Mais je fis de la main un geste de découragement et je m'assis, isolé, dans un coin. Belovzorov entra. J'étais satisfait de le voir. Je ne vous ai pas trouvé un cheval de selle assez tranquille, dit-il d'un ton brusque. « Freitag m'en garantit un, mais je n'en suis pas sûr. J'ai peur. »«
De quoi avez-vous peur ? Oserais-je vous demander ? Dit Zinaïda.
De quoi j'ai peur ? Mais vous ne savez pas monter à cheval. Dieu garde qu'il arrive un accident.
Et à propos de quoi cette fantaisie qui vous est venue dans la tête ?
Ça, c'est mon affaire. S'il en est ainsi, je vais prier Piotr Vassilievitch.
On appelait mon père Piotr Vassilievitch. Je m'étonnais qu'elle prononçât si librement et si facilement son nom, comme si elle fût sûre qu'il était à son service.
« C'est cela, » dit Belovzorov. « C'est avec lui que vous voulez monter à cheval. »«
Avec lui ou avec un autre, peu vous importe. En tout cas, pas avec vous. »«
Pas avec moi, » dit Belovzorov. « Comme vous voudrez. C'est bien, je vous trouverai un cheval. »
« Seulement, prenez garde, ne me trouvez pas une rosse quelconque. Je vous préviens que je veux galoper. »«
Vous galoperez, si vous voulez. »«
Avec qui, alors ? Avec Malevski ?»«
Et pourquoi pas avec lui, mon guerrier ?
Eh bien, tranquillisez-vous, » ajouta-t-elle. « Ne jetez pas des flammes avec vos yeux. Je vous prendrai aussi pour cavalier. Vous savez bien ce qu'est Malevski pour moi. »«
Fi !»
Et elle secoua la tête.
« Vous dites cela pour me consoler, » grogna Belovzorov.
Zinaïda cligna ses yeux.
« Ça vous console ?
Oh, guerrier !» fit-elle enfin, comme si elle ne trouvait pas un autre mot à dire.
« Et vous, monsieur Valdemar, vous ne voudriez pas aussi venir avec nous ?»«
Je n'aime pas me trouver en nombreuses sociétés. » murmurai-je sans lever mes yeux.
« Vous préférez le tête-à-tête ?
Eh bien, chacun selon son goût, » dit-elle en soupirant.
« Belovzorov, allez vous occuper de cela. Il me faut le cheval pour demain. »«
Oui, et l'argent, où le prendra-t-on ? » demanda la vieille princesse.
Zinaïda fronça le sourcil. « Je ne vous le demande pas. Belovzorov me le prêtera. »
« Prêtera, prêtera !» grogna la vieille princesse. Et tout d'un coup, de toute sa gorge, elle appela
« Dounyashka !»«
Maman, je vous ai cependant donné une sonnette !» remarqua la jeune princesse.
« Dounyashka !»
répéta la vieille dame. Belovzorov prit congé. Je partis avec lui. Zinaïda ne me retint pas. Chapitre 14. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure. Je coupai un bâton et je me dirigeai vers le fort. Je voulais distraire mon chagrin. La journée était belle, claire et pas trop chaude. Un vent gai et frais frémissait sur la terre avec un bruissement léger et régulier qui ne changeait rien de place. Longtemps, je me promenais sur les montagnes et dans les forêts. Je ne me sentais pas heureux. J'étais sorti de la maison avec l'idée de m'abandonner entièrement à ma mélancolie. Mais la jeunesse, le beau temps, l'air frais, l'entrain d'une marche rapide, le délassement d'un repos sur l'herbe dans un endroit solitaire, prirent le dessus. Le souvenir de mes mots inoubliables, des baisers reçus, restait toujours gravé dans mon âme, mais sans amertume. Il m'était doux de penser que Zinaïda ne pouvait pas douter de mon héroïsme et de ma bravoure. « Elle préfère les autres, » pensais-je. « Soit, seulement les autres disent, et moi j'agis. » Et encore, là se borne-t-il tout ce que je pourrais faire pour elle. Et mon imagination commençait de nouveau à travailler. Je me représentais comment je la sauverais des mains d'un ennemi. Comment, couvert de sang, je la tirerais de prison et comment je mourrais à ses pieds. Je me souvenais du tableau suspendu dans notre salon. Malek Adèle emportant Mathilde. Et tout à coup, je fus détourné de mes pensées par la vue d'un grand pic bigarré qui s'était posé sur un arbre et regardait à travers les branches avec inquiétude à droite et à gauche, comme un musicien derrière sa contrebasse. Puis je commençais à chanter « Les neiges si blanches » et je terminais par une romance à la mode « Je t'attends quand le zéphyr se lèvera ».
Je déclamai ensuite à haute voix la tirade de Yermak aux étoiles dans la tragédie de Komiakov. Enfin, j'essayai de faire moi-même une poésie, quelque chose de mélancolique. J'avais trouvé ce qui terminerait chaque quatrain. « Oh, Zinaïda, Zinaïda !» Mais je ne trouvais pas le reste. Cependant, l'heure du dîner approchait. Je descendis dans la prairie. Là, un sentier étroit se déroulait en serpentant et ramenait vers la ville. Je pris ce chemin. J'entendis le bruit sourd d'une cavalcade qui s'avançait derrière moi. Je me retournai et m'arrêtai net en ôtant ma casquette. J'avais reconnu mon père et Zinaïda. Ils marchaient côte à côte. Mon père, la main appuyée sur sa monture, parlait à la jeune fille en se penchant tout entier vers elle. Il souriait. Zinaïda l'écoutait, silencieuse, sans lever les yeux sur lui et les lèvres serrées. D'abord, je ne vis que. Ce ne fut que quelques instants après qu'au détour du chemin, Belovzorov se montra dans son uniforme de hussard sur un cheval noir écumant de fatigue. Le brave animal secouait la tête, hennissait et ruait. Le cavalier le retenait en serrant la bride. Je m'écartai. Mon père se redressa sur sa selle. Zinaïda leva lentement son regard vers lui et tous deux se mirent à galoper. Belovzorov s'élança à leur poursuite avec tout le bruit de son sabre. « Il est rouge comme une écrevisse, » pensai-je. « Tandis qu'elle, pourquoi est-elle si pâle ? Elle a été à cheval toute la matinée et elle est pâle. » Je redoublai le pas et je rentrai à la maison justement pour le dîner. Mon père avait déjà changé de toilette et, lavé, frais, se trouvait auprès du fauteuil de ma mère et, de sa voix sonore et égale, lisait le feuilleton du journal des débats. Mais maman l'écoutait sans attention. En m'apercevant, elle me demanda où j'avais été toute la journée et ajouta qu'elle n'aimait pas qu'on traînât Dieu sait où et Dieu sait avec qui. Mais je me suis promenée seule, étais-je sur le point de répondre, quand, regardant mon père, je me tus, sans savoir pourquoi. Chapitre 15. Les 5 ou 6 jours suivants, je ne vis presque pas Zinaïda. Elle se dit malade, ce qui n'empêcha cependant pas les visiteurs ordinaires du pavillon de se trouver présents à leur poste habituel, excepté Maïdanov, qui se décourageait et devenait triste tout de suite quand il n'avait pas l'occasion de montrer son enthousiasme. Belovzorov était toujours assis, morne, dans un coin, tout boutonné et rouge. Sur le fin visage du comte Malevski passait sans cesse un mauvais sourire. En effet, il était tombé en disgrâce auprès de Zinaïda, et, avec un soin particulier, il tâchait de se faire bien venir de la vieille princesse. Un jour même, il alla avec elle chez le gouverneur général. Mais cette démarche n'eut aucun succès, et Malevski en reçut du désagrément. On lui rappela une certaine histoire avec les officiers de l'armée, et il fut obligé de dire, pour se justifier, qu'à l'époque dont on lui parlait, il était alors peu expérimenté. Louchine venait 2 fois par jour, mais ne restait pas longtemps. Je le craignais un peu depuis notre dernière explication, et en même temps, je me sentais pour lui une réelle sympathie. Il vint un jour se promener dans le jardin Neskouchnoué. Il était ce jour-là de très bonne humeur et très aimable. Il me montra différentes herbes et fleurs dont il m'apprit les noms et les propriétés. Et tout à coup, il s'écria, comme on dit, de but en blanc en se frappant le front. « Et moi, imbécile, qui pensais qu'elle était coquette !» Probablement, il en est à qui il semble doux de se sacrifier. « Que voulez-vous dire par là ? » demandai-je. « À vous, je ne veux rien dire, » répondit Louchine d'un ton brusque. Quant à moi, Zinaïda me fuyait toujours. Mon apparition, il m'était impossible de ne pas le remarquer, l'impressionnait désagréablement. Elle se détournait de moi, malgré elle. Malgré elle, voilà ce qui m'était le plus sensible.
mais il n'y avait rien à faire, et je tâchais de ne pas me trouver sous ses yeux. Ce n'était que de loin que je l'épiais, ce qui ne me réussissait pas toujours. Il se passait encore en elle quelque chose d'incompréhensible. Son visage était devenu tout autre. Je fus surtout frappée de ce changement un soir que, par un temps doux et chaud, j'étais assis sur un petit banc bas sous le feuillage d'un sureau. J'aimais cet endroit. De là, on voyait la fenêtre de la chambre de Zinaïda. Au-dessus de ma tête, dans le feuillage assombri, s'agitait un petit oiseau. Un chat gris, le dos allongé, se faufilait prudemment dans le jardin, et les premiers scarabées bourdonnaient pesamment dans l'air encore transparent, quoique déjà moins clair. Toujours assis, je regardais la fenêtre, et j'attendais en me demandant si elle s'ouvrirait. En effet, elle s'ouvrit, et Zinaïda apparut. Elle était vêtue d'une robe blanche, et elle-même, son visage, ses bras, ses mains, était pâle, jusqu'à la blancheur. Longtemps elle resta immobile, et longtemps son regard, fixé droit devant elle, resta immobile sous ses sourcils froncés. Je ne lui avais même jamais vu un pareil regard. Puis, serrant fortement ses mains l'une dans l'autre, elle les porta à ses lèvres, à son front, et tout à coup, écartant ses doigts, elle rejeta ses cheveux qui tombaient sur ses oreilles, les secoua, et avec une sorte de décision, inclinant sa tête de haut en bas, elle ferma la fenêtre. 3 jours après, elle me rencontra dans le jardin. Je voulus l'éviter, mais ce fut elle-même qui m'arrêta. « Donnez-moi votre bras, » me dit-elle avec son ancienne tendresse. « Il y a longtemps que nous n'avons causé. » Je la regardai. Ses yeux luisaient doucement, et son visage souriait comme à travers un léger brouillard. « Vous êtes toujours indisposée ?» lui demandai-je. « Non, maintenant tout est passé, » répondit-elle en arrachant une petite rose rouge. « Je suis un peu fatiguée, mais cela passera aussi. »« Et vous serez de nouveau comme auparavant ?» demandai-je. Zinaïda porta la rose à son visage, et il me sembla que le reflet des pétales éclatants retombait sur ses joues. « Suis-je donc changée ?» me demanda-t-elle. « Oui, vous êtes changée, » répondis-je à mi-voix. « J'ai été froide avec vous, je le sais, » fit Zinaïda. « Mais vous ne deviez pas y faire attention, je ne pouvais être autrement. Mais à quoi bon parler de cela ?»« Vous ne voulez pas que je vous aime ?» « Voilà la vérité !» m'écriai-je l'air triste et avec un élan involontaire. « Non, aimez-moi, mais pas comme avant. »« Comment donc ?»« En ami, voilà comment !» Zinaïda me donna la rose à sentir. « Écoutez, » continua-t-elle, « je suis bien plus âgée que vous. Je pourrais être votre tante, ma parole. Ou bien, si ce n'est une tante... Une sœur aînée au moins. Et voilà que vous... Je suis pour vous un enfant, interrompis-je. Eh bien oui, un enfant, mais charmant, bon, intelligent, et que j'aime beaucoup. Savez-vous, je vais vous donner un grade. D'aujourd'hui, je vous nomme mon page. Et n'oubliez pas que les pages ne doivent jamais quitter leur maîtresse. Voici le signe de votre nouvelle fonction. Ajouta-t-elle en mettant la rose à la boutonnière de ma veste, comme signe de mes bonnes grâces envers vous. « Avant, je recevais de vous d'autres grâces, » murmurai-je. « Ah !» fit Zinaïda en me regardant de côté. « Quelle bonne mémoire ! Eh bien, je suis prête encore maintenant !» Et se penchant sur moi, elle posa sur mon front un baiser pur et tranquille. À peine levai-je les yeux sur elle qu'elle se détournait. « Suivez-moi, mon page, » dit-elle, et elle se dirigea vers le pavillon. Je la suivis, ne sachant toujours que penser. « Cette jeune fille douce, raisonnable, me disais-je, est-elle bien cette même Zinaïda que j'ai connue ? » Et sa démarche me semblait plus mesurée, toute sa personne plus majestueuse et élevée. Oh, mon Dieu, avec quelle nouvelle force mon amour se ranima !